En parlant ainsi, il approchait toujours la montre, tant qu'elle touchait presque la joue pâle de l'enfant. Celui-ci montrait bien sur sa figure le combat qui se livrait en son âme, la convoitise et le respect dû à l'hospitalité. Sa poitrine nue se soulevait avec force, et il semblait prêt d'étouffer. Cependant, la montre sillait, tournait, et quelquefois lui heurtait le bout du nez. Enfin, peu à peu, sa main droite s'éleva vers la montre. Le bout de ses doigts la toucha, et elle pesait tout entière dans sa main, sans que l'adjudant lâchât pourtant le bout de la chaîne. Le cadran était azuré, la boîte nouvellement fourbie au soleil, elle paraissait toute de feu. La tentation était trop forte. Fortunato éleva aussi sa main gauche et indiqua du pouce par-dessus son épaule le tas de foin auquel il était adossé. Oh, l'adjudant le comprit aussitôt. Il abandonna l'extrémité de la chaîne. Fortunato se sentit seul possesseur de la montre. Il se leva avec l'agilité d'un daim et s'éloigna de 10 pas du tas de foin que les voltigeurs se mirent aussitôt à culbuter. On ne tarda pas à voir le foin s'agiter, et un homme sanglant, le poignard à la main, en sortit, mais comme il essayait de se lever en pied, sa blessure refroidie ne lui permit plus de se tenir debout et il tomba. L'adjudant se jeta sur lui et lui arracha son stylet. Aussitôt, on le garrotta fortement, malgré sa résistance. Gianetto, couché par terre et lié comme un fagot, tourna la tête vers Fortunato qui s'était rapproché. « Fils de chien !» lui dit-il, avec plus de mépris que de colère. L'enfant lui jeta la pièce d'argent qu'il en avait reçue, sentant qu'il avait cessé de la mériter. Mais le proscrit n'eut pas l'air de faire attention à ce mouvement. Il dit avec beaucoup de sang-froid à l'adjudant, « Mon cher Gamba, je ne puis marcher. Vous allez être obligé de me porter à la ville. Tu courais tout à l'heure plus vite qu'un chevreuil, répartit le cruel vainqueur. Mais sois tranquille, je suis si content de te tenir que je te porterai une lieue sur mon dos sans être fatigué. Au reste, mon camarade, nous allons te faire une litière avec des branches et ta capote. Et à la ferme de Crespoli, nous trouverons des chevaux. » Bien, dit le prisonnier. Vous mettrez aussi un peu de paille sur votre litière pour que je sois plus commodément. Pendant que les voltigeurs s'occupaient, les uns à faire une espèce de brancard avec des branches de châtaignier, les autres à panser la blessure de Gianetto, Matteo Falcone et sa femme parurent tout d'un coup au détour d'un sentier qui conduisait au maquis. La femme s'avançait courbée péniblement sous le poids d'un énorme sac de châtaignes, tandis que son mari se prélassait, ne portant qu'un fusil à la main et un autre en bandoulière, car il est indigne d'un homme de porter d'autres fardeaux que ses armes. À la vue des soldats, la première pensée de Matteo fut qu'il venait pour l'arrêter. Mais pourquoi cette idée? Matteo avait-il quelque démêlé avec la justice? Non. Il jouissait d'une bonne réputation. C'était, comme on dit, un particulier bien famé. Mais il était corse et montagnard. Et il y a peu de corses montagnards qui, en scrutant bien leur mémoire, n'y trouvent quelques peccadilles, tels que coups de fusil, coups de stylet et autres bagatelles. Matteo, plus qu'un autre, avait la conscience nette, car depuis plus de 10 ans, il n'avait dirigé son fusil contre un homme. Mais toutefois, il était prudent, et il se mit en posture de faire une belle défense s'il en était besoin. « Femme, dit-il à Giuseppa, mets bas ton sac et tiens-toi prête. » Elle obéit sur le champ. Il lui donna le fusil qu'il avait en bandoulière et aurait pu le gêner. Il arma celui qu'il avait à la main. Et il s'avança lentement vers sa maison, longeant les arbres qui bordaient le chemin et prêt à la moindre démonstration hostile à se jeter derrière le plus gros tronc d'où il aurait pu faire feu à couvert. Sa femme marchait sur ses talons tenant son fusil de rechange et sa giberne. L'emploi d'une bonne ménagère en cas de combat est de charger les armes de son mari.